Pas pour l'instant. À signaler sur le marché d'échange, la stabilité maintenant du dollar à 1,2259 pour 1 euro. Je vous rappelle le CAC 40, moins 0,73% à 3629 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de secourir à Saint-Cloud. 5, 14, 2, 9 et 6. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'origine de la Shoah, l'antisémitisme nazi.
J'agis selon la volonté du Créateur Tout-Puissant. En me défendant contre le Juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur. Adolf Hitler, Mein Kampf.
Mille ans d'histoire. Lorsqu'en 1945, les Alliés ont libéré les survivants des camps d'extermination, on sait que la plupart d'entre eux étaient incapables de raconter ce qu'ils avaient vécu. La Shoah était tellement impensable que personne d'ailleurs n'aurait pu les croire, et pendant longtemps ils ont gardé pour eux le massacre le plus monstrueux de l'histoire. Et si on connaît mieux aujourd'hui la machine d'extermination nazie et comment des millions de juifs ont été éliminés, on a encore du mal à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, au mépris de toutes les valeurs et même des intérêts de l'armée allemande, a pu expliquer un crime sans précédent dans l'histoire de l'humanité? On savait pourtant que dès son arrivée au pouvoir, Hitler allait mettre en pratique ses théories antisémites. Écoutez, le fondateur de la LICA, à une réunion des anciens combattants juifs de la salle Wagram de Paris, Bernard Lecache, en 1933.
On continue de voir des juifs arrêtés, promenés à travers la ville dans des costumes que l'on veut burlesques, amenés à la préfecture, et puis ensuite emmenés dans des camions, emmenés où cela, dans des camps dits de représailles. Ceci, le gouvernement hitlérien ne peut pas le démentir, ce sont les consuls américains qu'ils l'ont écrit dans leur rapport.
Philippe Burin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du fascisme et du nazisme. On a souvent dit que pour justifier l'indifférence des opinions publiques pendant longtemps devant la persécution des juifs, qu'on l'ignorait alors que ça se passait, qu'on ignorait plutôt ce qui se passait en Allemagne à l'époque. Or, on vient de l'entendre, ces mots de Bernard Lecache datent de 1933, l'année même où Hitler arrive au pouvoir, et déjà, il dénonce les persécutions dont les juifs étaient victimes.
Les persécutions antisémites du régime nazi était connu de tous, la presse française, mais la presse des autres pays également, en faisait abondamment état, et il n'y avait pas le moindre doute sur cet antisémitisme. La différence avec notre regard rétrospectif, c'est qu'il était évidemment impossible de voir jusqu'où cette persécution irait, mais qu'elle fut brutale et qu'elle dépassa tout ce que les états de droit pouvait tolérer, cela a été évident à tous.
Alors vous venez d'écrire, Philippe Burin, au Seuil, un essai sur l'antisémitisme nazi, ressentiment et apocalypse. Alors, on a déjà beaucoup écrit sur la persécution, l'élimination des juifs, mais ce qui est passionnant et original dans votre livre, c'est que la plupart du temps, on explique comment les choses se sont passées, on raconte ce qui s'est produit dans les camps, mais on a du mal, évidemment, à expliquer. Ce qui est inexplicable, c'est vrai, c'est le pourquoi des choses. Pourquoi? Et pourquoi c'est en Allemagne que cet antisémitisme qui existait bien avant Hitler et bien ailleurs qu'en Allemagne, c'est qu'il a pris la forme la plus monstrueuse?
Alors, j'ai effectivement essayé de faire porter mes efforts, des efforts limités, parce que la question est redoutable, sur le pourquoi plutôt que sur le comment, et je crois que ce que j'apporte comme tentative de réponse est provisoire et partiel. Mais enfin, autant poser des questions plutôt que de ressasser des choses connues. Alors, pourquoi l'Allemagne? Eh bien, je crois que Dans le fond, si on avait considéré la situation en Europe autour de 1900, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé en premier lieu à l'Allemagne, qu'on aurait pensé à la Russie, à la Roumanie certainement, et peut-être même à la France qui est dans le sillage.
L'affaire Dreyfus, etc.
Qui dans le sillage de l'affaire Dreyfus, effectivement, a vu toute une série d'émeutes, de pogroms désagréables. Pour dire le moins. Et donc, l'Allemagne n'a pas une situation très différente de la France, grosso modo, au début du XXe siècle. Et si on essaye de donner des éléments de réponse à cette question, pourquoi l'Allemagne ? Je crois qu'il faut commencer par écarter l'idée qu'il y avait quelque chose de fatal, quelque chose d'inscrit dans le caractère et la culture allemande qui prédestinait ce peuple à devenir un peuple de bourreaux. La question, à mon sens, ou la réponse plutôt à cette question doit être cherchée dans des éléments de la situation allemande qui, en 1900, n'étaient pas encore activés, si je peux prendre cette métaphore, et qui seront activés, ces éléments, seulement après la Grande Guerre. Dans le fond, il y a trois éléments. Il y a le fait qu'il y a une question allemande, c'est-à-dire qu'en dehors des frontières de l'Empire allemand de 1900, il y a plusieurs millions, peut-être une vingtaine de millions d'Allemands. Et donc l'idée un jour de réunir tous ces Allemands dans un même État est déjà présente, elle sera ranimée par la défaite. Et qui dit nationalisme ethnique, c'est-à-dire il suffit de penser à la situation de la Serbie dans les années 1990, puisque la guerre de Yougoslavie est sortie de cette même configuration, même aujourd'hui, qui dit nationalisme ethnique comprend immédiatement que tout ce qui est étranger à un nationalisme défini ethniquement, comme les Juifs, va se trouver rejeté. Le deuxième élément, c'est l'importance de la culture religieuse en Allemagne, beaucoup plus forte qu'en France, où la sécularisation a été quand même promue très fortement, ne serait-ce qu'à travers le conflit entre l'Église et l'État.
Qui n'était pas croyant, on l'a entendu au tout début de l'émission, oui. Invoque le Créateur Tout-Puissant.
Parce que la religiosité pénètre toute la culture allemande, pénètre la façon dont on envisage la politique, et Hitler en a tiré tout à fait les conclusions. Et le troisième élément, c'est l'importance de la culture autoritaire, ici encore, parce que en Allemagne, la démocratie libérale a eu de la peine à pousser des racines.
Alors, trois éléments que l'on retrouve bien sûr dans les écrits de Hitler, et surtout dans Mein Kampf, écrit 10 ans avant son arrivée au pouvoir, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, l'antisémitisme est central et omniprésent dans l'idéologie d'Hitler. Dans son premier texte politique connu, une lettre de 1919, on lit déjà un programme concret. L'antisémitisme de raison, dit-il, doit mener à une lutte légale et planifiée pour l'élimination des privilèges que le juif détient. Mais il ne peut avoir, au bout du compte, qu'un seul objectif, l'éloignement pur et simple des juifs. Une obsession tenace, puisque la veille de son suicide en 1945, alors que le Reich s'écroule autour de lui, Hitler aurait déclaré « Avant toute chose, j'engage le gouvernement à maintenir scrupuleusement les lois raciales et à mener une résistance impitoyable contre l'empoisonneur mondial de tous les peuples, le judaïsme international. » Mais revenons à sa jeunesse. Dans Mein Kampf, Hitler raconte comment il est devenu antisémite. Alors curieusement, il explique que son milieu familial ne l'y portait pas. « Je ne me souviens pas, dit-il, d'avoir entendu prononcer le mot « juif » dans la maison paternelle du vivant de mon père. » Et Hitler ajoute « Je ne voyais encore dans le juif qu'un homme de confession différente et je continuais à réprouver, au nom de la tolérance et de l'humanité, toute hostilité issue de considérations religieuses. Mais ce garçon tranquille va changer en arrivant à Vienne, dit-il, lieu de naissance donc de son obsession antisémite. Et rapidement, dit-il, partout où j'allais, je voyais des juifs et plus j'en voyais, plus mes yeux apprenaient à les distinguer nettement des autres hommes. » Dans les pages qui suivent, toujours dans Mein Kampf, Hitler donne libre cours à sa haine. Il m'arriva d'avoir des hauts le cœur en sentant l'odeur de ses porteurs de cafetan, et c'était de la répugnance quand on découvrait subitement sous leur crasse la saleté morale du peuple élu. Ensuite, Hitler exprime une idée classique de l'antisémitisme, celle du complot des juifs qui sont partout et responsables de tous les maux. Était-il une saleté quelconque, dit-il, une infamie, surtout dans la vie sociale, à laquelle un juif au moins n'avait pas participé. Arrive ensuite un autre thème,
terrain de l'antisémitisme nazi, le juif vu comme une infection. Sitôt, écrit Hitler, sitôt qu'on portait le scalpel dans un abcès de cette sorte, on découvrait, comme un ver dans un corps en putréfaction, un petit youtre tout ébloui par cette lumière subite. C'était une peste, dit Hitler, une peste morale pire que la peste noire de jadis. Et il ajoute que l'on considère encore le nombre de ces barbouilleurs qui agissent comme les pires des bacilles et empoisonnent les âmes. Autre dimension importante, Hitler est persuadé que le juif veut la domination du monde, voire la destruction du monde. Il écrit dans Mein Kampf toujours, « Si le juif remporte la victoire sur les peuples de ce monde, son diadème sera la couronne mortuaire de l'humanité. »
Un commentaire sur ces extraits de Mein Kampf, Philippe Burin. Et d'abord, est-ce que c'était accidentel, si je puis dire, l'antisémitisme de Hitler, lié, on l'a entendu, à sa découverte des juifs à Vienne, en Autriche, où il est né? Ou est-ce que c'était plus profond? Vous dites que, au fond, toute la conception que Hitler se fait de l'histoire gravite autour de l'idée que l'histoire, c'est d'abord l'histoire de la lutte des races, et au sommet desquelles se trouve l'Aryen, contaminé, on vient de l'entendre aussi, par le juif.
Alors, ce qui ressort très clairement de ces extraits, c'est la densité, la concentration de la haine antisémite de Hitler, qui puise très largement dans les clichés existants, en ce sens, il n'invente rien. Il ne fait que absorber, condenser, recracher, si je puis dire, beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans l'antisémitisme moderne. Savoir comment il est devenu antisémite, c'est un problème difficile puisqu'on a assez peu de sources. Ce qui est intéressant, c'est comment il représente sa conversion. Et il la représente d'une manière, à mon avis, qui vise un objectif, parce que ce qu'il veut montrer au lecteur, c'est que on peut devenir antisémite. Et il dit, n'est-ce pas, par exemple, rien dans mon milieu ne m'y avait prédestiné, de même que rien ne m'avait prédestiné à détester la démocratie. J'admirais même le parlementarisme britannique. Donc il montre une conversion. Et c'est ça l'objectif, n'est-ce pas, c'est d'inciter ses lecteurs à faire la même conversion. Mais sur le plan de sa doctrine, c'est-à-dire si on laisse de côté son parcours autobiographique, sur le plan de la doctrine, les choses alors sont extrêmement claires, parce que les éléments constitutifs de cette doctrine s'articulent de façon implacable. Ce qui est au centre, c'est une vision raciste du monde, de la nature, de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des races, l'humanité est séparée en races, qui sont hiérarchisées par leurs valeurs. Et entre ces races règne un état de guerre perpétuelle. Donc ça, c'est la base de l'idéologie nazie, de l'idéologie hitlérienne, le racisme, ce qui veut dire, si on entend le racisme de façon conséquente, il faut d'abord commencer par éliminer les gens de sa propre nation qui sont porteurs de défauts raciaux, donc éliminer les malades mentaux, etc. Et ensuite, il faut éliminer les juifs, mais aussi les tziganes, les noirs, etc.
Alors ces idées antisémites de Hitler, elles arrivent au pouvoir avec lui en 1933, lorsqu'il devient chancelier et élimine en 8 mois tous ceux qui lui font obstacle. On écoute Hitler le 14 juillet 1933, quand le parti nazi devenait un parti unique.
Im vergangenen Jahre die Ernte eingeführt wurde, hat sich in Deutschland
Il s'est produit en Allemagne un bouleversement d'ordre historique. Les partis existants ont disparu.
Ein Volksstaat ist erstanden.
Un parti du peuple est né.
Vielleicht wird erst eine spätere Zeit.
C'est dans l'avenir que pourra être jugée l'ampleur de l'évolution qui s'est produite durant ces 8 derniers mois. Vous Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'antisémitisme nazi.
Et c'était Hitler en 1933, l'année de son arrivée au pouvoir. Alors là, ce n'est plus un opposant, Philippe Burin, qui s'exprime. C'est le chef d'un gouvernement qui aussitôt fait passer son antisémitisme de la théorie à la pratique. Il n'est pas encore question d'éliminer les juifs, mais de les séparer de la population allemande. Autrement dit, avant l'extermination, à partir des années 40, d'abord, c'est la discrimination, avec les lois de Nuremberg, notamment en 35.
Oui, comme on l'a entendu dans les extraits de Mein Kampf, l'objectif de Hitler dès le départ, et en ce sens on peut parler de programme, c'est l'éloignement des juifs, c'est-à-dire leur élimination de l'Allemagne, des territoires que plus tard l'Allemagne contrôlera. Et cette élimination, elle va prendre un certain nombre de formes successives, puisqu'il va procéder par étapes. Ça va consister à éloigner les juifs des services publics, des professions liées aux services publics, aux médias notamment, et puis en 1935, ça va être les lois de Nuremberg, l'interdiction aux juifs d'épouser des Allemands ou même d'employer des Allemandes comme domestiques à leur service. Et puis en 1938, ça va être l'arianisation, c'est-à-dire l'exclusion de tous les emplois, avec en point d'orgue la nuit de cristal.
Oui, il y a des brutalités sur lesquelles le gouvernement ferme les yeux. Alors ça, c'est la politique de Hitler. Est-ce que c'est celle des Allemands? Vous dites qu'au fond, quand il a été porté au pouvoir démocratiquement, hein, 44% des Allemands ont voté pour le parti nazi en 1933, il n'était pas ces Allemands nécessairement antisémites, c'est pas l'antisémitisme qui les intéressait dans le parti nazi. Enfin, pas en premier lieu,
mais c'est comme pour tous les partis d'extrême droite, je pense à Le Pen, d'une certaine façon c'est le même problème. Une fois que vous avez de toute façon les antisémites, les racistes, etc. Chez vous, vous vous préoccupez d'attirer les autres. Et donc Hitler a fait exactement la même chose. Mais personne en Allemagne en 1933 ne pouvait ignorer que le parti nazi était un parti résolument antisémite. Donc on a voté pour Hitler non pas forcément en raison de l'antisémitisme, mais on n'a certainement pas refusé de voter à cause de l'antisémitisme.
Puis on va peut-être s'y résigner aussi parce qu'il y a l'interdiction de toute forme d'opposition, on l'a entendu, il y a la peur. Puis alors vous le rappelez aussi, Philippe Burin, une propagande bien faite comme ce film antisémite de Veit Harlan, Le Juif Sus, un film qui prétend raconter l'histoire d'un juif de cour, Sus Oppenheimer, dans l'Allemagne du XVIIIe siècle.
Centaines de ces juifs s'installent. La population est sérieusement diminuée.
On n'arrête pas de s'abattre sur Stuttgart. Tout ça, c'est cet Oppenheimer qui l'impose. Le juif a déjà mis la main sur la farine, la bière, le vin. Il nous traite comme du bétail. Il outrage nos femmes et nos demoiselles.
Le scandale éclatera.
Ne crains-tu pas que quelqu'un vienne et puisse t'entendre?
Est-ce que tu as peur d'un juif, Dorothée?
Hier, en ville, il y avait un juif. Lévi, qui surveillait toutes les barrières. Inlassable, il allait de pont en pont, courant tous les postes de douane. Voyons, contrôlant tout, tout notre argent, il l'empochait. Tout l'argent des Wurtembourgeois, des paysans, allait dans ses sales pattes.
Ah, il n'y a encore rien à faire. Il faut être intelligent.
Les juifs le sont plus que nous, hélas.
Non, leur manque de scrupules te le fait croire. Leur intelligence, c'est la ruse. Et c'est leur argent.
Voilà ce que pouvaient entendre les Allemands et les Français occupés d'ailleurs au début des années 40. Alors il y a tous les trois ingrédients de l'antisémitisme nazi, Philippe Burin, le juif corrupteur de la pureté de la race aryenne, qu'il domine par la puissance de son argent et qui ne produit, qui ne crée rien, mais qui se contente de piller les pays où il s'installe. Vous dites que ces trois éléments, la santé, la puissance et la culture, c'est vraiment les trois éléments justement de cet antisémitisme nazi, la façon dont il a pu être admis, entre guillemets, par les Allemands.
Oui, je crois que le point fondamental, c'est de ne pas partir de l'idée que les Allemands étaient antisémites en 1925, comme ils le seront en 1935 ou en 1940. Je crois que l'arrivée de Hitler au pouvoir marque un tournant majeur, non seulement parce que les nazis, dorénavant, ont la maîtrise d'un appareil administratif, mécanismes de propagande, etc., qui sont extrêmement importants, et aussi les mécanismes de socialisation à travers l'école, mais aussi parce que le régime nazi propose aux Allemands une nouvelle identité politique qui est fondée sur la santé, sur la puissance, sur la culture. Et les Allemands, dans la mesure où ils admettent ces éléments de l'identité politique du nouveau régime, admettent aussi l'antisémitisme qui est le pendant de ces trois éléments. Autrement dit, seuls les Juifs sont l'opposé absolu à la fois de la puissance, de la santé et de la culture. Les Tziganes, par exemple, ne sont l'opposé que de la santé, mais ils ne représentent en rien un danger pour la puissance ou pour la culture. Donc c'est ici, à mon sens, que se fait le passage, l'absorption, si vous voulez, progressive par les Allemands de l'antisémitisme nazi, à travers leur acceptation de l'identité positive, entre guillemets, que leur offre le régime, un régime qui réussit dans un certain nombre de domaines à redonner le plein emploi, à redonner un statut de grande puissance, à redonner une apparence de culture, c'est-à-dire en utilisant effrontément la culture classique allemande comme s'ils l'avaient créée.
Alors ça s'explique et ça sert à justifier l'élimination de la discrimination des Juifs, mais pas encore leur extermination. Elle ne commence sera qu'après la guerre, vous le rappelez, Philippe Burin, et après un discours notamment de 1939 dont vous parlez beaucoup, où Hitler, le 30 janvier 1939, menace les Juifs. Mais il reste encore très vague sur le sort qu'il leur réserve.
Oui, il reste...
Un discours important selon vous, parce que vraiment vous l'expliquez dans le détail.
Oui, parce que ici on voit se nouer les deux éléments essentiels de l'antisémitisme nazi, et ce qui fait sa particularité par rapport aux autres formes d'antisémitisme présentes un peu partout en Europe. C'est que c'est d'une part un antisémitisme qui est fondé sur un ressentiment profond, c'est-à-dire les Juifs sont les voleurs, les menteurs, les corrupteurs, etc. Et donc il faut s'en débarrasser, et c'est en même temps un antisémitisme apocalyptique, c'est-à-dire que ce qui oppose les Juifs aux Allemands, c'est une lutte à mort. Et donc, dès que le régime nazi trouve devant sa route des obstacles, il les impute, ces obstacles, immédiatement aux Juifs. Et donc, cette combinaison entre le ressentiment des Allemands et l'apocalypse que dessine Hitler, je crois que c'est ça qui va être fatal.
Oui, parce que dans ce discours, en fait, il s'adresse aux puissances occidentales, et il les menace, si elles entrent en guerre, nous sommes en 39, au fond, d'éliminer les Juifs. Sans préciser comment, ça peut être par le départ qui a été envisagé vers des pays comme Madagascar, etc.
Oui, mais dans ce passage-là, il parle vraiment de leur extermination. Comme il a parlé juste auparavant de leur envoi dans un territoire lointain, on doit entendre extermination au sens physique. Et je crois qu'ici, on voit se nouer quelque chose qui est inclus dans la vision hitlérienne dès le départ, c'est-à-dire si le but est l'éloignement des Juifs, cet éloignement peut se réaliser de plusieurs façons. Il peut se réaliser par l'émigration forcée ou volontaire, il peut se réaliser par la transplantation, c'est-à-dire un transfert de population ailleurs, ou ça peut se réaliser par l'extermination.
Puis il parle de prophétie dans ce discours. D'ailleurs, c'est un mot qu'il va employer de manière quasi obsessionnelle pendant longtemps, justement comme dans ce discours, deux ans plus tard, le 8 novembre 1942, c'est un discours de Hitler, suivi de deux autres discours, de Goebbels et de Himmler en 43 et 44, mais d'abord Hitler, le 8 novembre 1942.
Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rasse.
Si la juiverie internationale s'imagine qu'elle est en mesure de mettre en œuvre un complot à l'échelle mondiale pour détruire la race européenne, c'est la race juive elle-même qui sera anéantie. Vous avez toujours raillé mon rôle de prophète, mais ceux qui riaient hier ne rient plus aujourd'hui.
Die jetzt noch lachen werden, in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen.
Joseph Goebbels.
Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und...
Comme les vermines qui détruisent les champs de pommes de terre et que l'on doit détruire, les Juifs détruisent les États et les peuples. Contre cela, il n'y a qu'une solution, mise à l'écart total du danger.
Radikale Beseitigung der Gefahr.
Heinrich Himmler.
Die Judenfrage ist in Deutschland und im Allgemeinen in den von Deutschland besetzten Ländern gelöst. Sie wurde kompromisslos gelöst.
Le problème juif est réglé dans toute l'Allemagne et dans tous les territoires occupés par le Reich. Ça, c'était ce qu'on vient d'entendre, c'était Himmler en mai 1944. Assez curieusement, Philippe Burin, vous dites que Himmler, qui était l'artisan de la solution finale, et Goebbels se sont plus ralliés qu'ils n'étaient enthousiastes à l'idée d'exterminer les juifs comme l'a voulu Hitler. Au fond, c'est Hitler qui a entraîné Goebbels et Himmler.
Oui, je crois que c'est Hitler qui a joué le rôle moteur. Non pas que Himmler n'était pas capable d'entretenir des idées d'extermination des Juifs, il l'était parfaitement capable, mais il attendait dans le fond un signe clair de son chef pour orienter la politique dans cette direction. Puisque, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il y avait trois possibilités pour se débarrasser des Juifs. Soit les faire émigrer, mais à partir de l'éclatement de la guerre, on peut plus le faire. Les États-Unis ne veulent pas accueillir de toute façon des Juifs. L'autre possibilité, c'est de les transférer dans un territoire lointain. On parle de Madagascar après la défaite de la France, mais la Grande-Bretagne poursuivant la guerre, on ne peut pas le faire. La Sibérie après la défaite de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique n'est pas défaite. Et donc, reste la troisième possibilité, la destruction, l'élimination physique. Donc ça, je crois que c'est dès le départ des possibilités envisagées, mais elles ne peuvent entrer dans la réalité que quand les deux premières possibilités sont écartées.
Et ça va entrer dans la réalité, et ça va même être appliqué jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'en 1945, il y a des trains qui vont partir dans les camps d'extermination, alors que l'armée allemande a besoin de trains pour ses besoins. C'est quand même incroyable cet acharnement jusqu'au bout, Philippe Durin.
Oui, mais c'est, je crois, tout à fait logique avec ce que Hitler précisément a annoncé au monde, et pas seulement à ses compatriotes allemands en janvier 1939. Ce qu'il annonçait, c'est dans le fond que quelques tournures que puisse prendre de la guerre mondiale, s'il doit y avoir une guerre mondiale, les Juifs au moins ne seront pas les vainqueurs de cette guerre-là, ne sortiront pas vainqueurs. Ça veut dire que, précisément, même si elle tourne au désavantage de l'Allemagne, les Juifs seront tués en premier. Mmh. Et je crois que c'est cette logique vengeresse absolument implacable qui fait la très grande spécificité de cet antisémitisme nazi et qui explique que, par exemple, ce que disait Simone Veil à plusieurs reprises, étant à Auschwitz en 1944, pourquoi est-ce qu'il continue, justement? Eh bien, je crois que la raison, c'est cela. C'est-à-dire, nous allons peut-être périr en tant que Reich, mais vous, les Juifs, vous serez morts avant nous.
Ça explique peut-être aussi le titre de votre livre, Philippe Burin, Ressentiment et Apocalypse. C'est un livre passionnant, un essai sur l'antisémitisme nazi, donc qui a été publié au Seuil. Il y a lire également L'Allemagne nazie et les Juifs, de Saul Friedlander, publié également au Seuil. Vous avez pu entendre un extrait du film de Weitarland, Le Juif Suisse, et des archives extraites de l'encyclopédie sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Armstrong et Jean-Philippe Jeanne. Documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, un anniversaire. Donc...